c'était le premier tour des élections législatives hier. Alors regardons ce matin quels sont les résultats dans notre région et voyons quelles analyses en tirer. Pour nous y aider, Pierre Aiguy est avec nous. Bonjour.
Bonjour Isabelle Duché.
Vous êtes doctorant en sciences de l'information et de la communication et chargé de cours à l'Institut catholique de Toulouse en communication politique. Merci pour votre présence à nouveau ce matin.
Merci de votre invitation.
Le paysage politique avait déjà beaucoup changé en 2017. En effet, de nombreuses circonscriptions avaient été prises par La République En Marche, aux socialistes ou aux républicains. Est-ce que vous pouvez nous rafraîchir un petit peu la mémoire ?
Alors oui, tout à fait. On avait dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, pas mal de circos qui avaient été prises par... de circonscriptions qui avaient été prises par La République En Marche. Au total, on en avait 15. 15 circonscriptions prises par La République En Marche, la plupart au détriment du Parti Socialiste, qui avait une très forte implantation dans la région. Et on va voir qu'en fait, les résultats d'hier soir montre une espèce de renversement, en quelque sorte, un retour à une situation antérieure, si ce n'est que là, on n'est plus sur un parti socialiste hégémonique, mais plus sur une union de la gauche, qualifiée de NUP, NUPES.
Plusieurs appellations
sont en cours.
Donc des terres qui avaient été donc arrachées aux socialistes et puis certaines à la droite, mais vous le dites beaucoup plus au Parti socialiste. Il y avait quand même des terres qui ont résisté à la vague La République En Marche en 2017. Qu'en est-il pour ce premier tour des législatives ?
Alors pour ce premier tour des législatives, on a surtout dans la région une percée très forte de la nouvelle Union populaire, avec sur 26 circonscriptions que compte l'ancienne région Midi-Pyrénées, 15 dans lesquelles la NUP arrive en tête, donc notamment en Haute-Garonne. En Haute-Garonne, on a 7 circonscriptions sur 10 où la nouvelle Union populaire arrive en tête, donc c'est considérable. Dans le Lot également, dans l'Aveyron. On en parlera peut-être après, la deuxième circonscription de l'Aveyron.
Un cas particulier.
Avec l'usine SAM, dans laquelle la NUP arrive en tête. Dans les Hautes-Pyrénées, une autre circonscription dans l'Aveyron. Dans le Tarn-et-Garonne et dans le Tarn également, où la NUP fait carton plein, 3 sur 3.
Ça fait quand même un raz-de-marée.
Sur la région Midi-Pyrénées, l'ancienne région Midi-Pyrénées, pardon. Mais comme je disais juste avant, peut-être qu'on a en fait un retour à la configuration d'origine. Il y a 5 ans, les voix de gauche avaient été dispersées entre les candidats du Parti Socialiste et les candidats de la France Insoumise. Cette fois-ci, il y a une union qui s'est faite. Malgré les quelques dissidences, je pense que les électeurs ont respecté cette union, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce résultat aujourd'hui.
Donc finalement, faire une union, c'est plutôt gagnant.
Plutôt dans la région qui est très ancrée à gauche, c'est plutôt gagnant. Je pense que les électeurs ont bien compris l'objectif de l'union et il me semble qu'il y a beaucoup de clarté. Et cette clarté a fait que effectivement les résultats sont au rendez-vous dans la région. Ailleurs sur le territoire, c'est moins le cas. Mais effectivement, dans la région, ça a été assez bien suivi.
Mmh. Alors, des candidats ne se représentaient pas à cette élection. C'est notamment le cas d'Anne Blanc, qui était députée de La République En Marche dans la circonscription de Villefranche-de-Rouergue. Pourquoi, en fait, elle ne s'est pas présentée, cette femme ?
Alors, le cas d'Anne Blanc, c'est un petit peu... on ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop pourquoi elle ne s'est pas présentée. Ce sont des raisons personnelles qui sont avancées, avant tout, par la députée. D'autres disent que en fait ce serait peut-être l'état-major de La République En Marche qui l'aurait un petit peu poussé vers la sortie, notamment pour une implication jugée insuffisante dans l'affaire de l'usine SAM, donc vous savez, cette usine de métallurgie que les ouvriers ont occupée pendant de nombreux mois, jusqu'au 25 avril. Et donc elle a été poussée vers la sortie. Et elle était quand même suppléante du candidat de la majorité présidentielle. Qui lui est un haut fonctionnaire, qui a travaillé notamment auprès de Jacques Mézard, qui a été ministre de l'Agriculture au début du quinquennat Macron. Et sur cette circonscription, c'est la nouvelle Union populaire qui arrive en tête. Donc peut-être que c'est lié, sans doute est-ce lié, au conflit social qui a eu lieu à la SAM.
À l'usine de la Samoa, évidemment. Alors, signalons aussi Sébastien Nadeau qui avait été élu en 2017. Là, on part dans la Haute-Garonne pour la 10e circonscription qui contient donc quelques quartiers de Toulouse et puis aussi Caraman, Castanet-Tolosan, Lanta, Montgiscard, Nailloux, Revel, Villefranche-de-Lauragais. Il ne se représentait pas parce qu'il avait été exclu de la majorité présidentielle en 2018 pour avoir refusé de voter le budget. Quels sont les résultats ce matin pour ce cas particulier ?
Dans la 10e circonscription de Haute-Garonne, c'est également la Nouvelle Union Populaire qui est en tête. Il faut noter dans cette circonscription, la configuration est un petit peu particulière. Donc effectivement, Sébastien Nadeau, exclu d'En Marche, ayant refusé de voter le budget 2019, a été remplacé par Dominique Faure, maire de Saint-Aurens, première vice-présidente de Toulouse Métropole. Et Dominique Faure qui a dû faire face à une candidature dissidente, celle de Reda Zitouni. Et Reda Zitouni, c'est pas n'importe qui, c'était le chef de cabinet de Sébastien Nadeau lorsqu'il était député.
Reste en famille quand même.
On reste en famille. Et donc Reda Zitouni a fait un score assez faible, 2,15% des suffrages exprimés. Il a évidemment fortement critiqué Dominique Faure, qui serait la candidate de Toulouse Métropole, qui ne serait pas représentante du territoire du Lauragais. Cette 10e circonscription, c'est la circonscription qui couvre le territoire du Lauragais. Et Saint-Aurens, c'est l'extrémité nord-ouest de la circonscription, donc qui est rattachée au territoire de l'agglomération toulousaine. Et donc Reda Zitouni a un petit peu essayé de jouer cette carte de Toulouse Métropole contre moi, le vrai habitant du Lauragais. Ça n'a pas fonctionné. Dominique Faure est au second tour, mais quand même bien bien devancé par le candidat ou la candidate de la Nouvelle Union Populaire.
Alice Assier, voilà. Merci. Alors, Carole Delga, évidemment, est intervenue hier soir et elle a cité toujours cette inquiétude face à l'abstention. Moins d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes pour choisir son député et donc, au-delà, le projet qui gouvernera la France. Donc, elle est évidemment inquiète. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom sur cette abstention qui était quand même déjà à plus de 40% dans les départements de Midi-Pyrénées en 2017 qu'en est-il pour cette élection Périgouis ?
Les résultats définitifs ne sont pas encore arrivés. Ce qu'on a, c'est pour France entière, on a quand même une progression de l'abstention, donc environ 1,5 en plus, une abstention sur le territoire national qui s'élève à 52,8%, contre un petit peu plus de 51% en 2017. Bon, l'abstention, ça commence à devenir un phénomène structurel de la vie politique démocratique en France. On voit à chaque scrutin l'abstention progresser par rapport au même scrutin précédent. Donc, on a toujours les mêmes éléments explicatifs, c'est-à-dire une espèce de fatigue démocratique, un affaissement démocratique, avec une démocratie représentative en panne, je pense. Il y a un besoin de changement dans la population. Sur le cas des élections législatives, on observe systématiquement une forte abstention. Elle n'est pas beaucoup plus forte cette fois-ci qu'en 2017, finalement. 52,8 contre 51,29.
Oui,
on est quand même sur des chiffres assez similaires. Y a effectivement un besoin de renouvellement démocratique. Et puis, c'est toujours pareil, lorsqu'on a mis les législatives juste après les présidentielles, l'objectif est de confirmer le résultat de la présidentielle. Les électeurs ont un peu le sentiment que c'est joué d'avance, que de toute façon, le président élu aura une majorité à l'Assemblée. Cette fois-ci, c'est peut-être un peu moins vrai. Mmh. On verra le résultat du second tour. Mais voilà, il y a ces phénomènes-là qui peuvent expliquer ce résultat.
Et puis, à noter que dans le Gers, il y avait quand même beaucoup de candidats. Et pourtant, il y a eu un fort taux d'abstention. Donc, à se demander aussi si tous les candidats ne disent pas la même chose. Voilà, là aussi, un élément à scruter. Alors, si on compare les résultats de l'élection présidentielle avec ceux de ce premier tour des élections législatives, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une certaine continuité dans le choix des candidats ?
Oui, tout à fait. On peut considérer ça. Si, par exemple, je regarde En Haute-Garonne, on peut regarder qui est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle. Donc on voit que Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête sur notamment la première, la deuxième, la quatrième circonscription de Haute-Garonne. Également, il est arrivé en tête sur la neuvième. Dans ces circonscriptions, c'est la NUP qui arrive en tête. Donc il y a une certaine cohérence. Par contre, un cas un peu particulier, la 10e circonscription de Haute-Garonne, dont nous discutions à l'instant, qui était la circonscription détenue par Sébastien Nadeau. Oui. sur laquelle Emmanuel Macron était arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle, eh bien ici, aujourd'hui aux législatives, c'est le candidat NUP qui arrive en tête. Donc effectivement, la situation de Sébastien Nadeau a pu desservir la situation de Dominique Faure, dont je parlais à l'instant, avec qui devait affronter une dissidence, a pu être fragilisée également. Globalement, sur les départements de la Haute-Garonne, la logique de la présidentielle semble respectée.
Sinon. Et à noter aussi que Pierre Baudis, le fils de Dominique Baudis et le petit-fils de Pierre, alors qui lui pour le coup n'est pas du côté de la droite républicaine, a été quand même élu au second tour. Il est en deuxième position. Parmi les candidats qui ont été réélus, quels sont les sujets qu'ils ont défendus? Est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des...
Les candidats qui accèdent au second tour?
Oui.
Parmi les candidats qui accèdent au second tour. Sur la NUP, ce qu'on peut constater, c'est que les tracts de campagne, les professions de foi, étaient tous les mêmes, hein, quelle que soit la circonscription. Donc moi, c'est ce qui m'a marqué, puisque c'était un programme de gouvernement qui était présenté, en fait, hein. Donc il y avait une espèce de cohérence au niveau national. On présentait un programme de gouvernement et ils avaient fait le choix délibéré de ne pas adapter le discours aux réalités territoriales.
Ça aurait pu coincer d'ailleurs pour des élections législatives.
Ça aurait pu coincer, sans doute. Est-ce que ça a coincé sur certaines circonscriptions? J'ai également consulté, donc sur ma circonscription, la profession de foi du candidat PRG, qui était soutenu par Carole Delga, par les dissidents, disons. Et là, effectivement, au contraire, on insistait beaucoup sur les dynamiques locales, sur les problématiques territoriales. Et donc, on voit que, aussi sur ce point-là, ils cherchaient à se distinguer de la NUP. Et puis ensuite, sur les candidats de la majorité présidentielle, eh bien, le discours était assez simple. Il s'agit d'appliquer le programme pour lequel Emmanuel Macron a été élu. Pour cela, il faut lui donner la majorité la plus large possible à l'Assemblée. Et donc, simplement, on essaie de jouer sur cette dynamique de réélection d'Emmanuel Macron. C'est très classique pour une élection législative, somme toute.
Oui, ça fait comme une forme de confirmation. À noter quand même que dans le Lot, Aurélien Pradier, qui est le candidat des Républicains, est arrivé premier. Il n'y en a plus beaucoup des candidats des Républicains. Et à l'inverse, les candidats soutenus par le Parti Socialiste se réduisent aussi à peau de chagrin.
Alors effectivement, les candidats soutenus par le Parti Socialiste, alors on a certains socialistes qui sont en tête, je pense notamment à Valérie Rabault sur sa circonscription du Tarn-et-Garonne, c'est la première circonscription du Tarn-et-Garonne, elle était soutenue par la Nouvelle Union Populaire, elle était également soutenue par Carole Delga, donc c'est une situation un petit peu spéciale, elle a pris ses distances par rapport à la Nouvelle Union Populaire, bien que soutenue, et également une situation un peu particulière, assez intéressante, je dois dire, c'est la 8e circonscription de Haute-Garonne. La 8e circonscription de Haute-Garonne, qui est dans le Comminges, donc le fief historique de Carole Delga, la présidente de région, dans laquelle elle a un de ses très proches, Joël Aviragnier, député sortant, socialiste, qui s'est représenté, dans un premier temps soutenu par la Nouvelle Union Populaire. Finalement, la Nouvelle Union Populaire lui a retiré l'investiture. On a eu une candidature qu'on pourrait qualifier de dissidente écologiste sur cette circonscription. Et je suis allé voir sur le site de la Nouvelle Union Populaire, il n'y avait aucun candidat investi dans la 8e circonscription. Donc une des seules de France où finalement il n'y a pas eu d'investiture NUP, parce que, situation un peu spécifique, Joël Aviragnier est en tête au premier tour.
Voilà pour cette analyse à chaud des résultats du premier tour de l'élection législative. Nous vous donnons rendez-vous, Pierre Aigoui, la semaine prochaine, donc lundi aux Aurores, pour commenter les résultats du deuxième tour. Merci à vous.
Merci à vous.